endroit où vous avez les Indiens. C'est ça la nation arc-en-ciel.
The Rainbow Nation, tous les soirs dans Et pourtant elle tourne à 18h15.
France Inter, partenaire du Nice Jazz Festival du 17 au 24 juillet au Jardin et Arène de Cimiez avec Earth, Wind & Fire, Goran Bregovic, Buddy Guy, Herbie Hancock, Laurent Garnier, Pink Martini. Retrouvez-les dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
15h04 sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Alors, je résilie tous mes contrats à la Matmut. Je ressors le service à vaisselle de ma grand-mère et je recommence à fumer. Voilà, ras-le-bol de la pub Pierre de Lyon. Ciao.
Salut Daniel, très belle émission encore sur Okinawa et le révisionnisme japonais. Quoique nous, on est pas mal non plus avec nos députés qui font des manifs pour interdire des films sur le massacre de Sétif, mais c'est pas pour ça que j'appelais, c'était pour parler de comptabilité un peu macabre. Tu parles d'Okinawa comme d'une guerre une bataille extrêmement sanglante qui a fait 20 000 morts du côté américain et plusieurs centaines de milliers du côté civil et japonais. Je voulais remettre ça en perspective parce que la bataille la plus sanglante de la guerre a été la bataille de Stalingrad. Elle a pas fait 20 000 morts, elle a pas fait 200 000 morts, elle a fait 2 millions de morts en 4 mois. 2 millions de morts. Bien sûr, comme c'est le peuple russe, toute la propagande depuis 1945 n'a pas chanté ça sur les toits. On sait que la bataille de Stalingrad a été une bataille dure, mais elle a fait 2 millions de morts. À titre d'exemple, toutes les forces américaines de toute la guerre sur tous les fronts, les Américains ont perdu 400 000 hommes. Et la bataille de Stalingrad a fait 2 millions de morts. Voilà. Ciao.
Le prochain repère du Pays d'Aix se tiendra ce mardi 8 juin à l'heure habituelle, c'est-à-dire 19h30 à la Basserie, le festival en bas du cours Mirabeau. Le thème choisi est « Qui contrôle Internet ?»
Bonjour Daniel, c'est Laurent, auditeur modeste et précaire, AMEP et AMG. Actuellement, nous occupons une agence de chez Pôle emploi à Jean Moulin, ici c'est à Nantes, dans un quartier, c'est le quartier de Bellevue.
Je voulais signaler qu'à l'occasion des commémorations qui ont lieu pour l'abolition de l'esclavage le jeudi 10 donc en Guyane, il y a plusieurs cérémonies tout au long de la journée. Et il y en a une qui me tenait particulièrement à cœur, c'est une manif qui se tient à 15h place du Coq ou place du marché, où se réunissent des sans-papiers en fait, hein, qui viennent parler un petit peu de de la vie qu'ils peuvent avoir, et qui viennent signaler surtout que l'esclavage c'est pas tout à fait terminé en fait. Hein. Voilà, loin de là même.
Oui, salut Daniel, c'est Nicolas en direct de la direction régionale de Pôle emploi, que les salariés de Pôle emploi viennent dans... Et je vais te montrer quelle est la revendication principale. Allez, pour Daniel...
Régularisation de tous les CDD. Régularisation de tous les CDD.
Messieurs les ministres, que faites-vous pour les chômeurs, hein? C'est vrai que c'est le bordel à Pôle emploi. Les employés, sûrement, ils ont commencé à en avoir par-dessus la tête de quand vous décrétez quelque chose. Au chômage aussi, comme les collègues, dans le Génois. C'est vrai que c'est le bordel. Je crois qu'on se fout de notre gueule. Les personnes qui n'ont pas de boulot. Hein, il faudrait aller travailler à 60 km. Parce que nous, je suis de Cône-sur-Loire, c'est vrai, il n'y a plus rien du tout. Dans le journal du centre de chez nous, il y avait marqué « La Nièvre finit un mauvais coton ». Il n'y a pas que la Nièvre. C'est seulement toute la France qui finit un mauvais coton. Allez, salut.
Oh, juste un petit message pour dire tout mon soutien à Monsieur Porte et à ses chroniques. Voilà, je viens de voir le truc. Wow, qu'en pensez Monsieur Domoran se désolidarise. Comment expliquer la grossièreté aux enfants? Bon, bref, quoi, faut qu'il arrête la grossièreté, c'est les agressions du gouvernement, c'est rien d'autre. Monsieur Porte, toute notre sympathie est encore plus fort. Allez, salut tout le monde.
Bonjour à toute l'équipe de Sylvain qui habite à La Réunion. Je tiens à vous remercier pour vos 110 émissions, en particulier celle d'hier sur Okinawa. Ce que je voudrais dire aujourd'hui n'est pas directement la suite de cette émission, mais d'ordre plus écologique et aussi anticapitaliste. C'est lié aux Japonais et à leur goût pour le thon rouge en sushi, sashimi, que j'ai adoré, mais que je me défends de manger maintenant que l'espèce est en train de disparaître. Les gouvernements tardent pour ménager leurs pêcheurs à interdire la pêche d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des associations comme Greenpeace qui essayent d'arrêter cette boucherie. Donc j'habite à La Réunion, je tombe sur deux articles de journal vantant les progrès de la pêche au thon. Une société de pêche au large, la SAPMER, vient d'acheter trois énormes bateaux-usines pour, pendant qu'il reste quelques thons dans l'océan Indien, ben les anéantir pour les vendre à prix d'or aux Japonais parce que les prix montent sans arrêt. Elle entend étendre encore ses activités dans les années qui suivent, quand il n'y aura plus de thon, après moi le déluge. Donc un capitaine d'industrie, un grand blanc de La Réunion, monsieur de Châteauvieux pour ne pas le citer, qui est actuellement président de la SAPMER, je cite une de ses phrases d'un rare cynisme, c'est carrément invraisemblable, je cite, « La volonté d'interdire la pêche au thon rouge va favoriser nos activités. Les Japonais vont de plus en plus s'intéresser à nos produits. » Bon, je crois que c'est à peu près sans commentaire. C'est tout à fait dans l'ordre de ce qu'on peut entendre là-bas si j'y suis. Allez, je vous remercie de publier cette petite annonce. Au revoir.
Et merci, chers AMG, pour tous ces messages. Aujourd'hui, on continue la balade au Japon, plus précisément à Okinawa, c'est-à-dire tout au sud de l'archipel. Et on s'intéresse... Et bien à la mémoire, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à la bataille d'Okinawa et à ce phénomène qui fait encore polémique très lourde et très profonde au Japon sur les suicides collectifs forcés. C'est un épisode particulièrement monstrueux de cette bataille d'Okinawa. Donc 1945, il y a exactement 65 ans, et qui est toujours en discussion, qui fait l'objet de polémiques, et malgré le travail des historiens, de la mémoire, on a entendu ce témoignage bouleversant hier de cet homme qui aujourd'hui a 85 ans, et qui nous a raconté comment, à l'époque, il a lui-même tué sa mère et sa sœur, parce que des ordres étaient donnés par les autorités militaires de se suicider ou de tuer les proches afin que les monstres qui arrivaient, les démons qui arrivaient, c'est-à-dire les alliés, c'est-à-dire les Américains, eh bien, ne vous tuent pas après vous avoir torturé, violé, etc. C'est des pages particulièrement épouvantables et qui sont toujours... toujours à vivre parce que, eh bien, cette histoire n'est pas entièrement écrite. Elle travaille toujours en profondeur les consciences et la mémoire des Japonais et des Japonais. Avant de commencer, je voudrais dire une chose, vous donner une précision suite à l'émission du 29 avril dernier, du 29 avril 2010, sur qu'il y avait pour sujet les anciens salariés de Moulinex. Nous avons reçu une lettre de Monsieur Blaillot, qui a dirigé Moulinex de 1996 à 2000, et qui est l'actuel directeur général de Geodis, qui est une filiale de la SNCF. Et il nous dit dans un courrier daté du 4 mai 2010, je cite, « Je ne suis pas mis en examen pour abus de biens sociaux. Et des décisions récentes de la Cour d'appel de Versailles ont confirmé que le dépôt de bilan de l'entreprise ne pouvait pas m'être imputé. » Fin de citation. Alors voilà, c'est volontiers que la Bassigisui fait part de ces rectifications. En effet, la mise en examen visait le délit de, je cite, « banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournement d'actifs ». Fin de citation. Sur le plan pénal, l'affaire a été instruite par le juge d'instruction Richard Palin et aujourd'hui par le juge d'instruction David Bénichou. Elle n'a pas encore été jugée. Voilà les précisions nécessaires et souhaitées suite à cette émission. Départ donc pour Okinawa. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, je laisse un message pour informer le plus grand nombre que le week-end prochain, dans un petit village des Alpes-Maritimes à Saint-Janet, un groupe d'habitants a décidé de fêter la biodiversité, initiative entièrement bénévole et citoyenne, et oui, ça existe même sur la Côte d'Azur. Archéologues, ingénieurs, agronomes, anthropologues, producteurs locaux, randonneurs, commerçants, apiculteurs, artistes, instituteurs, institutrices, enfants et anciens de notre village ont répondu présents et animeront les journées du 12 et 13 juin en proposant visites d'exploitations agricoles, conférences, débats, projections de films, ateliers et balades pédagogiques, ateliers créatifs, observation des étoiles, le tout s'achevant par un repas partagé sur la place de l'église le dimanche soir. La biodiversité se fête à Saint-Janet dans le 06. Venez nombreux, l'accueil sera chaleureux. Merci et bravo pour vos émissions modestes et géniales.
Les paris en ligne, impactole pour ceux qui investissent. Ah non, non, attention, qui investissent non pas en achetant un ticket, mais investissent dans les sociétés. Bah, il est assez facile de constater que plus un pays s'appauvrit, plus le nombre de gens qui jouent augmente. C'était l'exemple type du Brésil pendant un bon moment. Ma foi, il est aussi facile de constater que la chance existe. Ils ont raison, ces gens-là, de jouer. La preuve, c'est les copains du président qui ont les principales possibilités maintenant d'ouvrir des boîtes de jeux en ligne, qui peuvent donc ramasser les pactoles qui autrefois allaient quand même pour un tiers dans les poches de l'État, qui faisait dire que l'auto était l'impôt des imbéciles auxquels je cotise, mais au moins c'est l'État qui en profitait. Là, non, 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 ça va être encore des sociétés privées et celles-là même qui soutiennent une politique de baisse de revenus, de paupérisation sociale. Allez, comprendre quelque chose. Au revoir.
Vendredi soir, à 19h au latitude à Tourette, il y a le repère de Tourette. Et comme ça tombe en même temps que, d'après ce que j'ai compris, le match de football, ben on va parler du football. Mais on va pas parler du football qui nous montre à la télé. Enfin, on va parler de celui qui nous montre pas à la télé. On va parler de la FIFA, du pognon, des détournements, des influences sur les pays, des gamins qui sont exploités. Des gens qui, d'après ce que j'ai calculé, s'ils sont champions du monde, nos espèces de chèvres, ils vont prendre 300 et quelques 1000 euros chacun de primes, quoi. Ça fait plus de 30 ans de SMIG, quoi. Les mecs, ils vont les prendre pour taper dans un ballon, quoi. Alors, je voulais adresser un salut particulier à tous les espèces de connards qui se branlent le cul en s'imaginant que c'est formidable, le football, et que Zidane est un mec d'exception, quoi. Non, non, non. Ben, on parlera de ça et d'autre chose. Donc, vendredi soir, au latitude à Tourette, à 19h. Ciao, vive, portez-vous bien.
Bonjour à tous, à tous les AMG. Bonjour, Daniel. Ça me fait plaisir d'écouter votre émission. Je conseille d'ailleurs à tous les Français, à tous nos auditeurs partout dans le monde, d'écouter la Massive. Alors, vraiment, France Inter, ça, c'est de la radio. Hein. Je vous le jure. Alors que tout le monde écoute France Inter, ça me fait grand plaisir. Bonne journée. Au revoir.
戦争中にできた基地が未だにあるということですね。沖縄では戦争終わっておりません。
La guerre n'a jamais fini en fait à Okinawa。
まあ結論から言いますと、
cela s'est passé suicide collectif forcé。À l'époque, on disait que l'empereur a ordonné à tous les peuples japonais de mourir pour le pays。
On est dans le musée militaire de Tokyo, ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un avion kamikaze qui était suspendu au plafond de cette grande salle. Et voilà les avions dans lesquels les kamikazes se balançaient en tête de l'avion.
Tu vois le petit goupillon à la tête de l'avion ? C'est le détonateur qui faisait exploser toute la charge qui est dans le nez de l'avion et qui permettait de faire exploser les navires américains, essentiellement.
Derrière la barrière, c'est l'Amérique.
Il cassait les branches de l'arbre et fracassait la tête, ou avec un rasoir coupait la gorge, ou avec la faux coupait les veines du poignet.
Et
et c'était l'enfer vivant. Les femmes pleuraient, hurlaient, les enfants hurlaient, c'était l'enfer.
Suicide collectif forcé.
C'est ça, suicide collectif forcé. L'empereur a dit de mourir pour le pays et j'y croyais.
Salut, c'est Daniel Mermez et là-bas, si je suis avec Guy Vanckti, l'Okinawa, une mémoire suicidée.
Flight number 2, arriving from New York.
Étonnant cet endroit-là, il y a un groupe de personnes en train de prier, de faire un culte devant une grotte. Il y a une odeur bizarre avec des arbres étonnants avec des racines à fleurs du sol comme ça qui se répandent sur le sol. C'est une secte bouddhiste qui est en train de faire un culte qui psalmodie des prières devant l'entrée de cette grotte. Après, c'est une ambiance particulière, hein. Et là, il y a des... Je ne sais pas ce que c'est, ces espèces de rubans très coloriés qui sont accumulés là.
C'est des offrandes.
Voilà. Voilà, il y a une grande stèle en marbre.
Voilà, il y a le nom de tous les gens qui ont été morts ici, par famille, et leur âge, leur nom. Ouais.
Là, dans cette grotte, il y a eu des suicides collectifs forcés. C'est-à-dire qu'à l'instigation de l'armée impériale, les habitants devaient se tuer entre eux ou se tuer tout seuls.
Les grottes, ils ont brûlé des matelas puisqu'il n'y avait plus assez de grenades pour s'enfumer à l'intérieur, pour s'asphyxier à l'intérieur.
Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui, à Okinawa, presque 2000 km de Tokyo, tout au sud donc de l'archipel, dans ce chapelet d'îles, dont la plus grande est Okinawa. On n'est pas loin de Taïwan. On est dans un autre monde, dirait-on. En tout cas, on est dans un monde de la mémoire. On est dans un monde d'une mémoire qui n'est pas apaisée. On entend ces gens en prière qui psalmodient comme s'ils conjuraient quelque chose. Et on est avec un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Minoru Kinjo. Minoru Kinjo, c'est un artiste, c'est un sculpteur et c'est un homme engagé. C'est un artiste engagé qui, depuis des années et des années, depuis 40 ans, peuple tout autour de lui le monde, le sien en tout cas, de sculptures, grandeur nature en différents matériaux, mais la plupart en béton, en ciment, qui représente la bataille d'Okinawa, qui rappelle et qui renvoie à la bataille d'Okinawa, qui essaye d'expliquer, de montrer, de conjuré bien sûr aussi, mais de militer pour, alors pour plusieurs choses évidemment, pour la vérité, pour la mémoire, mais aussi pour le départ des bases américaines qui sont toujours présentes sur cette île et dans les îles alentours. Les bases américaines sont toujours présentes et c'est un objet de lutte, de polémique considérable pour les habitants d'Okinawa, Et pour les Japonais en général, le dernier Premier ministre qui a dû quitter son poste a dû le faire à cause des promesses non tenues, justement, de réduire le nombre de ces bases ou de les déplacer. Pour les habitants, c'est une nuisance considérable à cause du bruit, c'est épouvantable, à cause de la pollution épouvantable et à cause très souvent de la conduite des militaires américains. Il y a eu des histoires de viols, des histoires terribles. Alors évidemment, c'est aussi, ça constitue une ressource pour les habitants, mais malgré ça, dans leur grande majorité, ils sont opposés à la présence de ces bases américaines et qui restent bien évidemment pour des raisons géostratégiques, pour des raisons politiques dans cette région, face évidemment à la Chine, face à la Corée du Nord. Tous les prétextes sont bons pour justifier la présence de ces bases américaines. C'est de là que partent les avions qui allaient bombarder la Corée du Nord, qui allaient bombarder le Vietnam et qui après avoir bombardé l'Irak partent pour bombarder l'Afghanistan aujourd'hui. Voilà contre quoi luttent ces habitants et voilà contre quoi lutte l'homme avec qui on va passer cette heure, ce sculpteur formidable, 72 ans, le clope au bec, la casquette de travers, et qui va nous tenir compagnie, auquel nous allons tenir compagnie jusqu'à 16 heures dans la base où j'y suis, Okinawa, une mémoire suicidée.
Sano hara deva naku ippon no ana ippon no hana deva naku subete no hana たくさんの街ではなく一つの街ただ一つの街ではなく花の咲く街
Raconte-nous ce qui s'est passé dans cette grotte, dans ces grottes.
Soudan Kyosei-Stinoka, compulsory suicide. Kyosei-Soudan Shikokona, 84
personnes qui ont été mortes, suicidées, forcées.
Hotondo Kodomo ga okuta, asukoni kizamarete masukero, day size toka. 10 代 toka kodomo ga oi, toshiori to kodomo ga oi to no ga tokuchouteki desu ne.
La plupart sont des enfants moins de 18 ans et des gens âgés.
4月 no 1日 ni koko joruku shite nu desu yo.
Puis le 1er avril, il y avait un débarquement des Américains.
Tokoro ga American no heitai wa me no iro ga blue dakara yagi no me no iro ni niteru de yoru wa mono ga mienai toyu fuu ni.
Les Américains ont des yeux bleus et les gens ont pensé qu'ils ne voient pas la nuit. C'est comme des chèvres. Ça fait rire, mais ils croyaient comme
ça.
Il y a trois jeunes filles qui sont parties attaquer les Américains dans la nuit avec un bout de bambou. Les trois jeunes filles ont été poursuivies par les soldats. Ils sont échappés ici.
天皇制で米兵に捕まったら強姦されるとか 奪われる情報が入ってたから自分たちで死のうという意見が出てきた。
Et donc, avant de se faire attraper, les jeunes filles ont décidé de se suicider parce qu'ils avaient entendu que quand on devient prisonnier, les Américains vont nous violer, vont torturer.
Okinawa les gens sont les rois de bébé, les rois de la rouge, 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 les rois de la rouge.
Il ne faut jamais être prisonnier, il faut plutôt mourir que d'être prisonnier par les Américains.
C'est ça. 女の子、若い女の子、お母さんに刃物を突きつけてお母さんの手で殺してくれと。
Une des filles a demandé à aller chercher sa mère et de demanda de la tuer.
それでパニック状態になるわけ。
Ça provoquait une immense panique.
親戚、血の濃い方から殺し合いが始まったのがこの現場なんですよ、場所なんですよ。
Et les villageois, ils sont entre tués ici.
それができない人は来てるものを集めて火つけて死のうとした。
Et des gens qui ont pas réussi à se tuer, ils ont entassé des vêtements, de tout ce qui peut brûler, enfumé et essayé de se suicider pour ça.
Asphyxie. À l'intérieur de cette grotte qui est derrière nous.
84 personnes qui sont mortes.
Soit par asphyxie, soit par tous ces moyens qu'ils ont essayé d'utiliser pour soit se suicider. Soit tuer l'autre. On peut entrer dans la grotte là. On va entrer dans la grotte. Là, il y a des fleurs, il y a des bâtons d'encens, il y a des cordons de couleur arc-en-ciel très très vives qui servent d'offrandes.
Des petits gâteaux ou des sucreries qui ont été posées
gâteaux,
là.
Des offrandes de toutes sortes. Ah, là, c'est très. Oupa ! C'est humide, ça glisse.
Et c'est très bas de plafond, donc il faut se baisser.
Très bas de plafond, il ne faut pas être très grand pour entrer là-dedans. Bien. Et voilà la grotte. On distingue là la limite de la grotte. Ça devait sans doute aller plus loin. Mais c'est là qu'ils se sont entassés pour s'entretuer. C'est une drôle de mort, parce que ce n'est pas donner la mort à l'autre par haine. C'est presque par amour. C'est un cas de soumission intériorisée à l'autorité.
Takshano Haradeva Nak Eponana Ponu Hanadeva Svete no Hana
Est-ce que vous pouvez nous dire où on est?
Yamitanson Gima.
C'est le village de Yamitanson. L'endroit s'appelle Gima.
À Okinawa, sur l'île d'Okinawa.
Okinawa. Kokugano, Americano, Polo, Hikojo, Toyo, Beguno, Hikojo, Kichigata, Titokoros.
Et juste devant nous, il y avait la piste d'atterrissage américaine. Et là, nous avons récupéré, et c'est devenu un quartier résidentiel, moitié potager, moitié champ de sucre de canne et moitié habitation.
Alors, vous êtes sculpteur?
Oui. と33歳からですから40年前ですね。
J'ai commencé à 33 ans, donc ça fait 40 ans.
40 ans. 40 ans, un beau jour, Minoru s'est dit il faut que je raconte cette histoire, une histoire qu'il a connue, dont il a été témoin dans sa jeunesse, tout petit qu'il était. C'était 65 ans, il y a 65 ans, il a 72 ans. Donc il était gamin. C'est une mémoire d'enfant. Que porte cet homme-là et qu'il a voulu représenter à un moment de sa vie. Et alors il s'est dit, je vais sculpter tout ça, mais il me faut des modèles. Voyons de quoi qu'est-ce que je pourrais avoir comme modèle. Alors il a feuilleté, il s'est documenté, il a regardé partout. Ah, Rodin. Tiens, il trouvait que c'était bien Rodin quand même. Ah, ça pourrait alors une source d'inspiration. Il a regardé Diego Rivera. le muraliste mexicain. Ah, voilà une source d'inspiration. Daumier, les dessins de Daumier, les sculptures de Daumier. Ah, voilà, et ainsi de suite. Il a fait comme ça son miel, ses modèles. Pourquoi faire ? Pour raconter cette histoire. Et il est devenu un artiste populaire. On peut vraiment parler, alors là, d'un artiste populaire qui a représenté cette mémoire, cette histoire, la bataille d'Okinawa, les soldats américains, les soldats japonais, les gens, le peuple. Et le peuple, c'est souvent des gens de sa famille. C'est-à-dire que là, on voit une femme, par exemple, qui porte une sorte de poulet dans les bras. Eh bien, c'est quelqu'un de sa famille. Là, il y a un homme âgé. Eh bien, c'est quelqu'un aussi qui l'a connu. Chacun, c'est des mythologies personnelles. Et à partir de son vécu, de l'intérieur de sa mémoire et de sa sensibilité, qui essaye de rejoindre les autres et rejoindre tout le monde, parce que il est très très populaire sur son île. Et le 23 avril dernier, parmi ceux qui à Yamitan criaient US Go Home, vous pouvez sûr qu'il était là. Donc pas, c'est pas un anti-américanisme primaire et stupide, mais il faisait partie des 100 000 manifestants qui demandent le départ des bases américaines de cette île. Voilà l'homme avec qui nous sommes.
Le bulldozer qu'on voit là, il vient directement du Vietnam.
Il faut imaginer dans ce morceau de jardin tout un tas de figures, mais grandeur nature, toute une mise en scène de personnages. Effectivement, il y a ce bulldozer, par exemple, et bien c'est un vrai bulldozer conduit par un soldat américain. C'est en matière, un genre de béton, de ciment peint en gris. Tous les personnages sont soit gris, soit bruns, et c'est envahi un peu par la végétation. Allez, c'est resté dans la nature. Et tout autour du jardin, notre ami, il y a des maisons tout à fait normales, dans le style des constructions des années 50. Parce que toute l'île a été bombardée, mise à plat, et tout a été reconstruit depuis. Alors, il faut imaginer quelques maisons, des pavillons comme ça, carrés, dans ce style-là. Ce jardin-là, un peu envahi par les herbes du printemps qui arrivent. Et puis ces figures en ciment qui racontent une histoire que notre ami va nous raconter. Parce que nous, il faut nous donner des explications. Par où on commence ?
On marche sur les coquillages.
On quitte le petit chemin en coquillage.
Tous ces bas-reliefs, j'ai mis 10 ans, j'ai commencé à l'âge de 62 ans et maintenant j'ai 72 ans, ça fait 10 ans, et c'est la scène de guerre d'Okinawa.
Là, on est dans un grand espace rectangulaire, un grand jardin, enfin, qui fait peut-être 50 mètres sur 50. Et sur les parois, on a des grands bas-reliefs, gagnés par endroits par la végétation qui reprend ses droits, et qui racontent la guerre.
This public of the Ryukyu, that flag, you know.
Ah, ça, c'est le drapeau des Ryukyu.
République de Ryukyu.
Parce que Ryukyu, c'était l'ancien nom du royaume qui était ici, sur ces îles.
Le
type qui tient le drapeau de la République de Ryukyu, il porte sur son sac à dos le slogan « Indépendance de Ryukyu ».
Indépendance de ces îles avant que le Japon ne colonise cette région. Donc il y a eu une guerre déjà de colonisation par le Japon.
Oui, les gens tapent les tambours, c'est à la fois la fête, manifestation pour l'indépendance de Ryukyu. C'est la résistance contre les Japonais. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même nourriture.
日本人は Time is money, là, Okinawa, ningen wa time is no money.
Ça, j'ai compris. À Tokyo, on dit le temps, c'est de l'argent, et ici, c'est pas de l'argent.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ryukyu? Ryukyu. Eh, Ryukyu, c'était un pays, tout simplement. C'est un ensemble d'îles qui n'avait rien à voir avec le Japon, en principe. Qui était plus proche de Taïwan que du Japon. Mais, en 1879, le gouvernement du Japon, le gouvernement Meiji, a annexé ces îles. Et la plus grande, Okinawa, avec l'arbitrage de l'ex-président des États-Unis, Ulysses Grant. Donc, il y avait cette complicité déjà américaine et japonaise contre les habitants de cette île, on vient de le dire, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes physiques, d'ailleurs, que les gens qu'on peut rencontrer à Tokyo ou ailleurs, au Japon. Et ça, c'est une revendication forte. Une revendication forte. Il faut rappeler qu'à la suite de la bataille d'Okinawa en 1945, les forces américaines alliées sont restées occupées l'île jusqu'en 1972. Et c'est suite à une révolte de la population d'Okinawa en 1972 que les États-Unis ont rendu cette île à sa propre gestion, dépendant évidemment du gouvernement de Tokyo, mais reste le problème des bases américaines qui sont un problème présent, omniprésent, comme on l'a dit.
Voilà, ça c'est la scène de Deuxième Guerre. Et ce sont des soldats japonais qui ont une figure des oiseaux. Hein, vous voyez, c'est la guerre des oiseaux.
Oui. C'était
des résistances contre Satsuma, envahisseur japonais.
Hein. C'est le clan du sud de l'archipel qui a envahi ces îles.
Parce que les gens de Satsuma, ils volaient des femmes et des filles. Donc des hommes, ils ont résisté en prenant des armes qui se trouvent.
Donc, il y a un peu de temps.
Ce sont des gens qui se battent avec les rames de bateaux et des outils d'agriculture.
Ils utilisent comme nunchaku et compagnie.
Nunchaku, tonfa.
Tonfa, c'est ce que maintenant utilise la police française.
Oui.
Et tout ça sont devenus maintenant des arts martiaux avec ces mêmes instruments.
Ah, voilà. Ah oui, c'est ici que le karaté a été inventé.
Et les gens qui regardent, c'est des soldats américains, des femmes d'Okinawa, il y a plein de monde.
C'est vrai, là, on voit un gars qui a une casquette qui a écrit USA dessus.
Coca-Cola et Kyokai. Salvador Dali a symbolisé la parole Coca-Cola et Kyokai a été apporté par le monde.
Alors, Salvador Dali a dit: première chose que les colons apportent, c'est l'église et Coca-Cola.
C'est vrai qu'on voit Coca-Cola et l'église et une croix. Il faut enlever un peu de végétation pour mieux voir le bas-relief.
La nature est en train de reprendre ses droits. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'il y a ce jardin halluciné, là, très très beau, très touchant, mais au milieu des pavillons de banlieue, quoi.
Si j'avais d'argent, je protégerais mieux mes œuvres, mais je n'ai pas d'argent, alors ça reste dans le jardin.
Qu'est-ce que tu préférerais? Que ce soit dans un grand musée à Washington, par exemple, un grand musée aéré avec de l'air conditionné à Washington, ou bien ici dans le jardin avec la végétation qui est en train de reprendre ses droits, les couleurs qui s'en vont un peu, les silhouettes qui s'effacent, le ciment qui s'effrite.
Beaucoup quand tu gagnes, moi, merci.
Je préfère ici que voilà que ça périsse.
Ouais.
ça, c'est la sculpture, le bas-relief principal, c'est le plus grand. Il est immense, hein. Il doit faire 12 mètres à peu près de long et puis 4 mètres de haut. Et ça, ça représente des grottes. Ce qu'on distingue tout de suite, c'est des soldats américains, donc on est en 1945, qui sont au-dessus des grottes et puis en dessous, dans des anfractuosités, partout, on voit des gens. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là?
Compulsory suicide. C'est compulsory suicide.
C'est suicide collectif forcé. On voit ce soldat américain qui crie dans le mégaphone, on ne vous tue pas, on vous sauve, on vous donne la nourriture et sortez d'ici. Et on voit un petit enfant qui pleure et un autre soldat américain qui regarde au fond de grotte et il est surpris par les mouvements des cadavres.
On voit un empilement de cadavres, des parents, des enfants qui sont entassés, enchevêtrés.
Mind control されてるから、それで自分たちが死んでいったんです。ここは抵抗してるんですよ。
Pourquoi ils sont pas rendus? C'est que voilà, c'était mind control.
Le contrôle des esprits
par l'armée d'après.
これから行くところに全くそのそういう洞窟があるんですよ。これもこれはあの日本兵が沖縄の人たちを壕から追い出していく場面。
Alors ça c'est les soldats de l'armée de l'empereur qui menacent les habitants.
Tuez-vous entre vous, sinon on vous tue.
食べ物を奪ったり、壕から追い出していったという対照的な部分ですわ。
Oui, c'est exactement ça. C'est que voilà, l'armée de l'empereur chasse les gens, tandis que les soldats américains essaient de les sauver.
これ日本の右翼が見ると怒るよ。
Si les extrême droite japonais voient ça, ils vont pas être contents.
弱い者武器を持っている兵隊たちがもうチンプで風刺的に描いてるけどこっちの方が綺麗。
Comme Domier, je pense que les gens qui ont de pouvoir, ils sont laids.
芸術家は権力の手先になったらいかん。
Alors, l'artiste ne doit pas être avec le pouvoir.
Jamais. 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 Voilà, Domier à Okinawa. Magnifique. Ce sculpteur, Minoru Kunjo. Je pense que ce serait formidable de faire une grande exposition à Paris de cet artiste remarquable, aussi remarquable que Osman Sow. Vous vous souvenez de cette superbe exposition qu'on avait eue sur le Pont des Arts à Paris avec les sculptures d'Osman Sow. Eh bien, ce serait formidable de faire quelque chose de... pas la même chose, bien sûr, mais ce sculpteur Minoru Kinjo, parce que c'est vraiment un artiste populaire. Il existe un catalogue en japonais, et là, je peux pas traduire, là, je suis un peu bloqué, mais je vois bien les images. Et sur toutes les images, il est représenté en train de sculpter, mais avec des gens autour, les gamins du village, qui lui donnent un coup de main, qui sont autour de lui, et la volonté, elle est de faire comprendre par la sculpture, par cette représentation, par cette sculpture narrative, eh bien la mémoire collective, immédiatement lisible, immédiatement palpable. Ça, c'est magnifique. Alors,
j'ai fait avec 1000 personnes de tous les villageois et des enfants.
Et ça représente une sculpture énorme qui fait 8 ou 10 mètres de haut, qui représente, on ne sait pas très bien, un chien, un monstre énorme.
C'est un lion chinois. Il est face aux Américains. Il rugit contre les Américains.
Ah, voilà, c'est ça. C'est un symbole de la résistance contre les États-Unis.
C'était le champ d'entraînement de tir des Américains.
ミサイル基地が向こうにあったんですよ。
Juste à côté, c'est la base des missiles.
村民が米兵と喧嘩して、
Tous les villageois ils étaient contre et on a réussi à les chasser. Mais après, c'est l'arme de défense japonaise qui voulait occuper ce lieu. Et c'est pour ça qu'on a construit tout de suite ce lion pour occuper avant qu'il vienne. Et nous avons aussi construit le barbecue house, voilà, pour que les gens fassent le barbecue partout. Ni les Américains, ni les Japonais ne pouvaient pas venir. Voilà, surtout ce lion, il nous protège. L'histoire d'Okinawa, c'est la résistance. Ouais.
Contre les Japonais, contre les Américains.
Nous pensons que nous sommes des gens d'Okinawa, ils sont colonisés doublement.
Ils se sentent colonisés par le Japon, toujours aujourd'hui, mais surtout, et le plus évident, c'est par les États-Unis d'Amérique à travers des dizaines de bases américaines qui fonctionne toujours. Et bien sûr, il y a eu cette guerre atroce ici. L'île d'Okinawa a été occupée par les États-Unis jusqu'en 1972 par l'armée américaine, c'est-à-dire au moment du déclin, du désengagement au Vietnam. Parce que c'est d'ici que partait l'aviation pour le bombardement sur le Vietnam. Les deux guerres du Golfe sont parties d'ici. Et c'était aussi le cas pour l'Irak. Et actuellement, les avions partent d'ici pour bombarder l'Afghanistan. Expliquez-nous où on est là, où on se trouve.
Yasukuni Jinja. Yasukuni Jinja, c'est un endroit où on se trouve. C'est un endroit où on se trouve. C'est un endroit où on se trouve.
Nous sommes au sanctuaire Yasukuni, au centre de Tokyo, dans le quartier de Kudan. Et c'est un lieu très symbolique dans Tokyo.
Alors, c'est un lieu très symbolique parce que c'est un sanctuaire d'une part et d'autre part un musée de la guerre.
Oui.
De quelle guerre ?
D'abord en 1894, dans la guerre sino-japonaise. Puis dans la guerre russo-japonaise de
1904.
Et en 1931, l'invasion de la Mandchourie.
そして 1941年の太平洋戦争.
Et puis en 1941, la guerre du Pacifique.
その後第一次世界大戦.
Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Où le Japon envahit l'Indonésie, toute l'Indochine de l'époque, la Birmanie,
la Malaisie,
les Philippines, enfin toute la région passe sous le contrôle du Japon en 1941.
Oui. そうです. なぜそうしたかというんですか?
Alors, c'est tous les morts de cette période-là qui sont célébrés dans ce sanctuaire.
Oui, c'est ça, c'est l'entourage. Et...
Sauf qu'évidemment, tout ça, ce sont quand même, malgré tout, des guerres différentes. Évidemment que la guerre, c'est vilain, c'est pas bien, mais c'est quand même des guerres de nature différente.
Moi, これらの戦争は異なる性格を持っていますけれども、すべて、日本軍は天皇のために戦ったということで、戦死者が靖国神社に全員祀られている。
Bien sûr, chaque guerre a sa spécificité, ses propres raisons, mais ils sont tous déifiés ici parce qu'ils sont tous morts pour l'empereur du Japon.
Mort pour l'empereur du Japon, ça ne veut pas tout à fait dire mort pour la patrie. On a dit hier comment, après la guerre, le tribunal de Tokyo a exempté l'empereur de toute responsabilité. L'empereur n'a pas été poursuivi en justice, ni lui, ni sa famille, ni un certain nombre de notables de la guerre et de l'expansion militariste, impérialiste, de ce qu'on a qualifié rapidement du fait des nazis de l'Asie. Et c'est là où on peut dire que ce temple Yasukuni Jinja, qui veut dire le temple du pays apaisé, ne porte pas du tout son nom, parce que c'est un lieu névralgique, c'est un symbole de conflit de mémoire actuellement au Japon, et l'histoire est loin d'être apaisée. On est avec Takahashi Tetsuya, qui est un historien qui a longuement travaillé, continue de travailler sur la mémoire de son pays.
Tout d'abord, ce musée dit que les guerres que nous avons dû faire étaient justes. Elles étaient justes parce que nous devions défendre notre propre pays. Elles étaient aussi justes parce que nous protégions les autres peuples d'Asie de l'invasion des pays européens qui, à l'époque, colonisaient l'Afrique ou l'Asie.
C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on voit dans le musée, cette expansion absolument colonialiste du Japon est considérée toujours aujourd'hui comme un colonialisme anticolonial. Parce que les pays qui sont envahis par le Japon à cette époque-là sont des pays colonisés par la France, par l'Angleterre, etc. Et les Japonais disent, ben voilà, nous, on a décolonisé ces pays. On était là pour les soutenir dans leur décolonisation. En tout cas, on a été la source de l'inspiration des luttes d'indépendance qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, en 2010, dans ce musée, on dit l'inspiration de la décolonisation, c'est nous, les Japonais, alors que ces Japonais-là, cette armée japonaise et cet empereur japonais étaient liés avec Hitler, avec Mussolini et faisaient partie de l'Axe.
Effectivement, c'est ce que dit ce musée aujourd'hui.
C'est la doxa principale. C'est cette version-là qui forge le récit national japonais. Au-dessus de nous, on entend les corbeaux, qui sont terrifiants, ces corbeaux. Hein.
Dans le parc de Yoyogi, il y a même des pancartes qui disent « Attention aux corbeaux qui vont vous attaquer ».
Voilà le militarisme japonais. Ils sont dans les branches maintenant. Les kamikazes.
Merci à tous, c'était un reportage avec Guy Vanctil. Merci à notre traductrice Atsuko Ushioda.
Merci à Minoru Kinjo, Takahashi Tetsuya, Sanae Lefebvre, notre traductrice, la seconde traductrice. Un merci à Colin Kobayashi, Matsuba Soichi, à Yasuko Kudaka du Okinawa Times. Mardi soir, c'est tout à fait autre chose. Toute dernière projection de Chomsky et compagnie dans le cadre du Festival des Quartiers Libres à Poissy, près de Paris. Ce sera à 20h au cinéma de la Place de la République à Poissy. Et je serai présent, moi-même, en personne, pour le débat qui suivra cette projection. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pourrez voir des photos, des sculptures de Minoru Kinjo. À la technique aujourd'hui, Fabien Eliès et Olivier Daligo, Koyen Guyen et Raphaël Mouterde ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet. Attends vos messages au répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 réclame.
Le papa de Mathéo est serein. Il a choisi de protéger sa maison.
Avec la GMF.
Équipé d'un système d'alarme qui photographie l'intrus et d'une télésurveillance qui prévient la police en cas d'effraction, sa maison est en sécurité.
Grâce à la GMF.
Le papa de Mathéo peut donc profiter de ses vacances en famille et penser à autre chose. Ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. En ce moment, un mois offert pour un premier abonnement souscrit avant le 29 août. Service opéré par Securitas Direct, conditions en agence et sur gmf.fr.
Hey, dis donc. Tu viens parier avec ta grand-mère, toi, maintenant?
Ouais.
Mais attends, elle s'y connaît en foot?
Les bases.
Et tu la laisses remplir des bulletins toute seule?
Bah, de toute façon, elle joue pas pour le foot, hein.
Ah!
Bah oui.
Avec Paris On Sport, du 7 au 27 juin, en plus de vos paris, vous pouvez gagner un coupé sport cabriolet par semaine et de nombreux autres cadeaux en participant au tirage au sort. Voir modalités et règlements en point de vente et sur parionsport.fr.
Paris On Sport, mieux parier pour mieux gagner.
FDJ.
Ici Radio France Londres. Au mois de juin, les antennes de Radio France se mobilisent pour célébrer la radio, la résistance et l'anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle.
Vive la France !
Avec le 18 juin, une journée spéciale en direct de Londres, en partenariat avec le comité du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin 40.
Un événement avec Place au devoir de mémoire de la France mutualiste.
Le général de Gaulle a dit qu'on ne doit pas perdre espoir.
En savoir plus, radiofrance.fr.
16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
À 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, la pression monte pour les joueurs. William Gallas, le défenseur central de l'équipe de France, a fait savoir aujourd'hui qu'il ne s'exprimerait pas dans les médias pendant toute la durée de la compétition. Aucune raison n'a été avancée pour expliquer ce silence. Et le premier match de la France, c'est vendredi contre l'Uruguay. Des nouvelles de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain et icône de tout le pays, devrait bien faire une apparition lors de la cérémonie d'ouverture. 10 à 15 minutes avant le match, a expliqué son petit-fils. Nelson Mandela regardera le reste de la rencontre Afrique du Sud-Mexique chez lui. Sous les yeux de dizaines de journalistes du monde entier, Jérôme Kerviel comparaît depuis le début de l'après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d'avoir, par des opérations frauduleuses, fait perdre près de 5 milliards d'euros à son employeur, la Société Générale. Costume sombre, cravate rose pâle, visage fermé, l'ancien trader a mis plus de 10 minutes pour se frayer un chemin parmi la nuée de caméras et rejoindre la salle où se tiennent les audiences. Une quarantaine de témoins sont cités à comparaître pour ce procès fleuve, prévu pour durer 3 semaines. Un procès décidément hors normes, le tribunal a explicitement interdit aux journalistes de poster des messages sur le réseau social Twitter pendant les audiences. Le gouvernement rendra sa copie sur les retraites le 15 juin. En attendant, quelques pistes de financement sont déjà évoquées. Par exemple, taxer les fonctionnaires. Un relèvement de leur taux de cotisation salariale pourrait rapporter 3 milliards d'euros. Les syndicats FO et CFDT dénoncent une baisse déguisée du salaire des fonctionnaires. Autre mesure envisagée, une taxation spéciale et temporaire sur les revenus supérieurs à 11 000 euros par mois. Bonne nouvelle pour le secteur aéronautique français, la compagnie aérienne Dubai Emirates a commandé à Airbus 32 exemplaires de son A380 pour 11 milliards de dollars, une commande sans précédent et la première pour l'avion géant d'Airbus depuis un an. Le Monde ne sera pas suisse. Le groupe de presse Ringier vient d'annoncer qu'il renonçait à son offre de reprise du quotidien du soir. Parmi les repreneurs potentiels figurent toujours Claude Perdriel, propriétaire et fondateur du groupe Nouvel Observateur, et un trio composé de l'homme d'affaires Pierre Berger, du banquier et propriétaire des Inrecuptibles Mathieu Pigas et du président de Free, Xavier Niel. Les repreneurs doivent déposer leur proposition définitive vendredi. L'Espagne proteste contre la rigueur. Les trois quarts des employés du secteur public ont fait grève aujourd'hui pour protester contre le plan d'austérité gouvernementale destiné à réduire les déficits publics. Le plan entraînera des réductions de salaire de 5% en moyenne dans la fonction publique cette année. Et il n'y a pas qu'en Europe qu'on se prépare à la rigueur. Le président américain Barack Obama demande une réduction de 5% des dépenses des organismes publics, sauf pour les programmes liés à la sécurité. À 5 mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains dénoncent l'aggravation des déficits publics. Obama, qui présente le déficit budgétaire comme un legs de l'administration Bush, s'est engagé à faire de ce dossier une priorité de son action.
Coupe du monde de football 2010.
Jusqu'au 11 juillet, vivez à l'heure sud-africaine sur France Inter.
Ce vendredi, matinale spéciale Coupe du Monde avec Nicolas Demorand et ses invités.
Avec, à 7h15 et dans le journal de 8h, toute l'actu de la Coupe du Monde avec Franck Ballanger et Noureddine Zidane, nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud.
À 9h30, Pascal Clark sera en direct de Johannesburg pour Comme on nous parle.
Et le dimanche à 18h15, débat, reportage, duplex avec l'Afrique du Sud dans Footballeur du Dimanche. Votre nouveau rendez-vous footballistique
présenté par Renaud Dely.
Jusqu'au 11 juillet, vivez la Coupe du Monde de football 2010 sur France Inter.
Toutes les infos
sur franceinter.com. France Inter et l'Orchestre National de Lille avec Jean-Claude Casadesu présentent la 7e édition de Lille Piano Festival du 11 au 13 juin. À l'honneur, les compositeurs et les pianistes russes, le bicentenaire de Schumann, Aldo Ciccolini, Nikolai Lugansky, entre autres. Et en direct le 11 juin à 16h, Carrefour de l'Odéon. Le 13 juin à 20h, le concerto numéro 3 de Rachmaninov. Et sur France Inter à 21h. Renseignements, franceinter.com.
France Inter et Château de Versailles Spectacle présente, du 19 juin au 28 août, les grandes eaux nocturnes. Dans le jardin, la poésie d'une promenade ponctuée de surprenantes créations visuelles et sonores au travers des bosquets et des fontaines mises en eau, couronnées d'un feu d'artifice final. Retrouvez les grandes eaux nocturnes de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
16h05 sur France Inter, l'heure du Carrefour de l'Odéon.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. On célèbre aujourd'hui le bicentenaire de la naissance de Robert Schumann. Et oui, on sait que c'est l'année Schumann et Chopin. Alors Chopin a pris de l'avance parce qu'il est né, lui, le 1er mars. Et puis peut-être parce qu'il est plus populaire, tout simplement. Chopin est mort de tuberculose, de phtisie, comme on disait autrefois. Donc ça, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion. Robert Schumann est mort fou. Alors là, évidemment, c'est plus inquiétant, c'est plus difficile à expliquer. Il faut oser certains mots, parfois, et j'y viendrai. Donc, un déséquilibre psychique, peut-être. Être maladie organique, on va voir plus loin si c'est vrai ou pas, mais on ne saura jamais la vérité absolue. En tout cas, ce n'est pas un bacille, un virus probablement qui a abattu Robert Schumann, mais lui-même, cette espèce de maniaco-dépression permanente qu'il vivait probablement, et en tout cas, un génie qui a dit la chose la plus caractéristique, je crois. C'est « Je voudrais, comme le rossignol, chanter jusqu'à en mourir ». Je crois que c'est ça qui détermine le plus le psychisme de Robert Schumann, qui a hésité entre plusieurs destins. Il a fait du droit pour être dans la bonne société bourgeoise, pour réconforter sa mère qui ne voulait pas du tout qu'il soit musicien, pour peut-être impressionner la chère Clara qu'il va finir par conquérir durement dans un combat terrible qui va aller jusqu'au tribunal parce que son père ne voulait pas la laisser partir avec ce personnage douteux dont la chambre était une véritable pharmacie. Robert Schumann était hypochondriaque, il avait peur de beaucoup de maladies et finalement, c'est, je l'ai dit, c'est probablement lui-même qui va atteindre rendre les ressources et les sources vives de son être. Alors, il était pianiste, on le sait, dès le début. Dans son enfance, il touchait le clavier et il avait aussi un don particulier pour montrer les gens. Il dessinait au piano certaines mines, certaines allures des personnages de son entourage et de ses camarades de jeu. Il a fait d'ailleurs plusieurs petits portraits dans les scènes d'enfants, entre autres. Et aussi dans son Carnaval opus 9, qui date de 1834-1835. Là, il était dans cette agitation du carnaval, et puis il a décrit aussi bien d'ailleurs Clara, la chère Clara, qu'une précédente fiancée, et qu'il a laissé tomber de manière un peu sauvage d'ailleurs, Mademoiselle von Fricken. Et on voit aussi le portrait de Paganini, enfin bref. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle une pause, enfin c'est lui qui appelle ça comme ça, et c'est là que ça va le plus vite. Peut-être ça montre bien qui était Robert Schumann. Se reposer pour lui, c'était aller quelquefois à une vitesse terrible, vertigineuse. Et puis, il y a la marche des David Bündler, c'est-à-dire des compagnons de David. C'est une société qu'il avait formée, lui, à partir de personnages qu'il connaissait dans des tavernes enfumées. On refaisait le monde, on contestait les vieux schnock et la critique en place, par exemple. Les compositeurs comme Meyerbeer, qui étaient considérés comme des gens sans beaucoup de talent. Quelques pianistes trop virtuoses, quelques canaris, comme on appelait à l'époque ceux comme Rossini qui faisait chanter, qui faisait gazouiller les sopranos dans l'extrême aigu. Bref, un groupe de compagnons, les compagnons de David, et on va entendre après cette pause très rapide la marche des David Bündler, des compagnons contre les Philistins, donc tous ces mauvais, tous ceux qu'il fallait secouer pour arriver enfin à la vérité en art.